Pour parler brassage maison, nous aurions pu prendre les entrepreneurs qui le font dans leur grange, des bars qui le font dans leur cave, et la communauté des brasseurs amateurs est assez large, même en pays de vin. D'ailleurs, je me méfie, on a les forces du mal dans le public, je m'attends à des débordements qui moussent.
C'est pas le genre de la maison.
Nous recevons Pauline Gadea, brasseuse de bière en amatrice, consultante média, formatrice en bibliothèque et élève des choses vivantes dans ses placards.
C'est PU, carré, petit, utile.
Bonjour Pauline.
Bonsoir.
Pour commencer, l'inévitable question, raconte-moi ta première gorgée de bière.
Je crois que c'était pas de la très bonne bière, hein, parce que c'était quand même il y a un petit moment.
Il faut commencer par ça.
Non? Bah, il faut commencer par quelque part. Je pense que c'était la première fois que j'étais un peu ivre.
Ah.
Tout simplement.
Et tu t'en es rappelé?
Oui, la première fois où tu es ivre, quand même, tu t'en souviens, hein. Enfin, je sais pas vous.
Mais comment t'as su que c'était pas une bonne bière, en fait?
Je pouvais pas savoir que c'était pas une bonne bière à l'époque. Je crois que j'ai quand même bu. Enfin, c'était une marque. Je vais pas la citer, mais vous imaginez ce qu'on peut boire à 16 ans dans les années 90. Voilà. Mais non, maintenant que je bois d'autres choses, je sais que c'était pas terrible. Mais à l'époque.
Mais est-ce que ça t'a marqué du coup?
Ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est le goût de la. Il y a un goût que j'associe toujours à la bouteille verte.
D'accord.
Qu'on retrouve un peu dans les bières, dans certaines bières espagnoles, aujourd'hui notamment, même qui ne sont pas spécialement industrielles. Il y a un goût comme ça qui m'a marqué, qui je pense est plutôt le goût de la bière industrielle, que j'associe vraiment à la bouteille verte. Quoi. Il y a un goût de bouteille verte que j'ai retenu.
Ça y est, tu m'as donné des repères. Je vais penser à ça à chaque fois. Bouteille verte. Et du coup, quelles sont tes bières qui t'ont marqué plus tard? Enfin, qui t'ont.
Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la bière il y a peut-être 5 ans, grâce à Brieux, ici présent, qui a ouvert le bar Water. Mmh. On a commencé à se rendre compte qu'il y avait des très très bons trucs en bière et que c'était pas juste ce qu'on pouvait goûter dans n'importe quel bar classique, parce qu'il y a encore 5 ans, c'était pas si répandu qu'on ait des bières un peu intéressantes et diversifiées. Enfin, 5 ans, plus que 5 ans, enfin, je suis en train de me rajeunir là. 6-7 ans, je sais pas, bon. La bière, il y a vraiment des choses intéressantes, il y a des goûts beaucoup plus divers que ce qu'on croit, donc on a commencé à acheter des bières pour les goûter ensemble, pour les comparer, et en se disant, ah ouais, en fait, il y a vraiment des gens qui font ça, notamment en France, et on savait pas du tout, et c'est trop bon, et c'est super.
Mais comment
c'est
tout un monde... En allant boire des bières dans d'autres bars
ou... Non, pas dans les bars. Au début, c'était plutôt vraiment, on en achetait dans certaines caves, parce que dans les bars, on n'en trouvait pas tant que ça. Mmh. À Toulouse, hein, notamment.
À l'époque, c'est-à-dire il y a 5-6 ans.
Il y a 6-7 ans, ouais. On allait plutôt les acheter en cave. Et après, on faisait des soirées où on les goûtait, on les comparait, on disait, ah ouais, c'est cool. Et petit à petit, on s'est mis à comprendre qu'on pouvait en faire aussi. Enfin, voilà. Ça a été. C'était vraiment plutôt au début des soirées à la maison. On s'achetait des échantillons en se disant on va tester soit tel style, soit telle brasserie, soit. Voilà.
Et du coup, quels sont tes types de bières préférées? Sachant que, du coup, dans la brasserie artisanale, on découvre un rayon infini de bières. Enfin, de type de bière, en fait.
Je vais pas être hyper originale. Je pense que mes types de bière préférées, c'est souvent les IPA.
Alors, déjà, c'est quoi, des IPA?
C'est des bières amères. Il en parlait tout à l'heure sur l'historique du style, sur pourquoi c'est amer. C'est parce que c'est originairement les bières, je vais pas répéter ce qu'il a dit, mais qui étaient envoyées en Inde. Donc, du coup, il y avait beaucoup de houblon dedans. Mais en fait, c'est
qui devenu, permet de les conserver.
Qui permet de les conserver. Le houblon, c'est antiseptique. Bon. Mais c'est devenu un style en soi. Et moi, c'est resté mes bières préférées souvent. Avec les bières acides un peu quand même qui contrebalancent, oui. C'est assez plus récent encore comme intérêt. Mais parce que j'aime bien les goûts prononcés et que j'aime bien l'amertume et que c'est, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs de bière intéressante, c'est ça. C'est vraiment le marqueur de l'amertume sur la fin et de se dire, ah ouais, ok, il y a
et
un
on
truc.
Peut les, on peut aimer l'amertume en fait, c'est ça aussi ouais. Avec cette tendance ouais. Des bières artisanales, c'est que du coup, il y a un intérêt pour ça en fait. Alors qu'avant, on n'y met pas ça. Enfin,
peut-être eh ben, que... possiblement. Je me demande dans quelle mesure c'est... Qu'est-ce qui a tiré quoi ? Parce que quand même, c'est un phénomène hyper important, les bières artisanales aujourd'hui. Mais c'est... Ouais, c'est fort possible. En tout cas... En tout cas, moi, c'est un goût qui m'a plu tout de suite, quoi. Et c'est un... Je me souviens, ouais, de ce marqueur-là, de... Vraiment, j'identifie ça. C'est presque comme quelque chose que je c'est pas de la, enfin c'est pas de la bière telle que je la connais quoi. Donc.
Et d'ailleurs, comment on définit une bière artisanale ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce qu'il y a une... comment on la reconnaît en fait ?
Alors là, le public, le public m'attend au tournant. c'est la même question que j'imagine que comment. Moi, ça me fait penser, j'ai travaillé un petit peu dans le fromage, ça me fait penser à la même question pour le fromage, donc je vais peut-être plus connaître cette question sous cet angle-là, mais une bière artisanale, ça va être... c'est très difficile, vous rigolez. Mais c'est une bière qui est brassée par une équipe qui est restreinte, déjà, je pense, qui n'est pas humainement avec 20 000 personnes, je dirais... Quoique, il y a des brasseries artisanales qui s'en sortent très bien et qui ouvrent plein de succursales partout. C'est une bière qui est une bière d'auteur un peu. C'est une bière derrière laquelle il y a
j'aime
une intention.
J'aime beaucoup ce nom,
mais
bière
c'est
d'auteur.
Vrai. C'est une bière qui est brassée par quelqu'un ou par un groupe de personnes qui se dit tiens, on va faire ça parce que ça nous plaît, ça nous intéresse et c'est bon. Et c'est peut-être pas une bière qui va être dictée par des intérêts... on va dire purement économico-capitalistique dès sa création, dès son origine. C'est peut-être ça une bière artisanale, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a une polémique là-dessus, parce qu'il y a des artisans qui sont devenus très gros, et qui sont devenus gros, et qu'on peut aujourd'hui se demander si c'est encore des artisans ou pas, quand on atteint
font des
une certaine
encore
taille.
Enfin, qui font des litres,
ouais,
qui brassent...
en termes de production de litres,
parce
mais honnêtement...
Parce que tu veux dire que c'est normé, enfin, il y a un quota à ne pas dépasser.
Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je sais que c'est un très gros débat dans le milieu de la bière artisanale. Qu'est-ce que c'est une bière artisanale ? Je pense que c'est une bière qui est brassée dans un endroit par quelqu'un. Ça me paraît compliqué d'appeler artisanale une bière que tu envoies faire brasser par quelqu'un d'autre, par exemple.
Pourtant, ça se fait de plus en plus, mais c'est pas...
Ouais, pour moi, ça c'est pas une bière artisanale, par exemple. Et je pense qu'on peut... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un consensus là-dessus. Mais après, moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Et si vous voulez bien, je la laisse à des spécialistes qui sont complètement passionnés par ce débat. Pour moi, ouais, c'est ça. C'est une bière qui est faite par quelqu'un qui a une idée, une envie, une velléité de création et de pouvoir mettre les mains dedans, quoi. C'est que la personne qui pense la bière, ça va être la personne qui la fait aussi, au moins en partie. Pour moi, c'est ça, une bière artisanale.
D'accord.
Pour ça que je dis bière d'auteur, même si les gens ont ri.
Ah, mais moi, j'adhère à cette appellation, bière d'auteur. Alors, du coup, comment on peut lire une étiquette de bière ? Parce qu'il y a plein d'informations, mais on ne sait pas comment la décrypter, en fait.
Moi, je vais souvent regarder déjà le nom du style, parce que ça va me dire... moi, ça va me donner un marqueur assez net de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais boire. Souvent, on n'a même pas besoin de regarder tellement beaucoup l'étiquette parce que la couleur va nous donner quand même des grosses indications si on voit la couleur à travers la bière, sauf si elle est en canette. Après, je regarde souvent l'IBU quand même.
Alors, c'est quoi ça ?
L'IBU, c'est I, c'est peut-être Indice of Bitterness Unit.
Ah,
something like that. Comment ? Internal Bitterness Unit. J'étais pas loin. C'est le degré d'amertume. Le degré d'amertume potentiel calculé en fonction des houblons qu'on a mis dedans, qui va être
d'accord, c'est indiqué sur la bouteille. C'est
pas
c'est fou,
toutes
ça.
Les bouteilles, mais mais certaines, la plupart des bouteilles, et notamment des bières artisanales qui savent que c'est des marqueurs importants pour les gens qui achètent les bières, savoir est-ce qu'elle est amère ou pas, ça donne quand même une bonne indication. Et ça, pour le coup, on peut pas le voir sur la couleur. Parce qu'après, il y a l'EBC, qui est l'indice de couleur, de type de malt. Mais en fait, ça, bah, on le voit quand on regarde la bouteille. On voit de quelle couleur elle est.
Plutôt dans le verre.
C'est ça. Oui. Et les ingrédients aussi, parce que des fois, il y a des choses un peu... s'il y a des fruits, s'il y a des fleurs, il y a des brasseurs qui mettent les houblons qu'ils utilisent. Si on les connaît un peu, ça peut nous donner une indication.
Ouais, c'est pas tous les... C'est pas tout le temps le cas.
Moi, je me souviens des étiquettes de De Molen.
C'est quoi ?
C'est une brasserie, justement, qui était artisanale, qui a été rachetée et qui aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours, est-ce qu'elle est pas ? Bon, moi, j'achète toujours leur bière de temps en temps et je trouve toujours ça bon. Peut-être que j'en bois plus suffisamment pour faire la différence, mais ça a été une brasserie artisanale très emblématique. Qui est passé aux mains des méchants, entre guillemets.
Ah, et qui... racheté par la bouteille verte?
Ah, non, pas la bouteille verte, mais...
un autre groupe dans ce style-là.
Qui a été racheté par un grand groupe, par, je sais plus lequel, par AB InBev, non?
Ouais, c'est de toute façon, on va tous les citer.
Par AB InBev. Alors... Okay. C'est collaboratif, hein, comme émission, chez vous. Oui. Vous vous rendez pas compte, mais... ça va. Par AB InBev. Et eux, sur leurs étiquettes, ils ont que des informations. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un graphisme hyper simple et dessus, il y a tout un tas d'indications très techniques sur la bière. Et en fait, c'est des jolies étiquettes, mais en vrai, on lit pas tout. C'est juste pour nous dire, regardez, on fait les choses avec amour et on est consciencieux.
Avec sérieux aussi.
Avec sérieux et on sait ce qu'on fait. Mais honnêtement, moi, je regarde un peu l'IBU, un peu les ingrédients. Mais je lis quand il y a des trucs rigolos.
Il y a des trucs rigolos, du coup ?
Mais il y a des fois des trucs très rigolos.
Comme quoi ?
Il y a des blagues, des fois dans les ingrédients, des fois dans la manière de faire. Là, j'en ai pas en tête, c'est dommage. Les blagues sur les bières féminisées, en général, ça me fait pas trop marrer. Mais sur des ingrédients plus ou moins fantasques, ou alors des faux ingrédients, du genre ça a été fait avec de l'eau, du malt, du houblon et de l'amour, j'en sais rien.
Bon, ah oui.
C'est quand même très propice, les étiquettes de bière artisanale, à exprimer l'identité des gens qui la font. Je trouve ça souvent plus sympa.
Ah, il y a un parallèle aussi avec les vins d'auteur, avec du vigneron.
Ouais,
en fait,
c'est un peu le même esprit souvent que sur les étiquettes de vin nature, un peu, par exemple. On retrouve le même genre de blague.
Mais alors, que penses-tu des bières industrielles, du coup ?
J'en bois plus beaucoup, en fait, parce que pour moi, c'est quasiment pas la même boisson. Ça m'amuse toujours d'en boire en Espagne ou en Asie ou dans des endroits comme ça où on n'a pas forcément trop le choix. En Espagne, on a le choix, mais en Asie, pas trop, par exemple. Ça dépend où on est. Mais j'en bois plus beaucoup et j'aime plus.
Ah.
J'aime plus trop.
Mais c'est vrai que tu voyages beaucoup, mais est-ce que dans d'autres pays, dans d'autres continents, il y a de la bière artisanale ?
Ouais, il y en a vraiment partout, de plus en plus partout. Maintenant, quand je voyage, je regarde un peu à chaque fois où est-ce qu'il y en a. À Séoul, il y en a, c'est trop bien. Là, en Indonésie, on n'a pas trop. Enfin, en tout cas, pas là où j'ai été récemment. Mais oui, moi j'en bois quasiment plus parce que si jamais il y a que ça, souvent je prends autre chose finalement parce que j'aime vraiment plus ça quoi.
Alors et que penses-tu des artisans brasseurs ?
Non, je les aime beaucoup les artisans brasseurs.
Alors tu en as rencontré dans les ateliers ?
Moi j'ai quasiment brassé que avec Brio qui est maintenant professionnel. Donc c'est sûr que mais si quand même. Donc oui, et puis j'en ai rencontré plein dans les festivals. Il y a quand même de plus en plus de festivals, et heureusement à Toulouse et même ailleurs où les gens viennent présenter leur bière, où on peut les goûter, où on peut parler avec eux, où on peut. Donc oui, c'est super, Il y a un vrai, j'en ai rencontré pas mal, ouais. En général, ils sont chouettes, ils sont gentils, ils ont des trucs intéressants à raconter sur ce qu'ils font, pourquoi ils font ça. Ils viennent d'horizons assez variés souvent, parce que comme c'est très récent, il y a peut-être un peu moins une barrière de gens qui se disent « Ah ben je vais pas faire ça, il y a des traditions ancestrales ou c'est pas pour moi ». Il y a vraiment je sais pas, il me semble qu'il y a pas mal de diversité dans les profils des brasseurs aussi, c'est assez cool. Il n'y a pas trop de filles comme partout, mais bon,
non,
ça vient.
Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus.
Ouais.
Par quelle démarche tu t'es décidée à brasser ta bière ?
Eh ben, force qu'on en goûte. Il y a quelques années, on a commencé à se poser la question d'en faire, en se disant « Ah ben, ça n'a pas l'air trop compliqué ». Moi, c'était l'époque, ouais, où je faisais du fromage. Brieux, il était encore sommelier, je crois. Mais il avait envie de fabriquer des trucs aussi. On avait envie de jouer aux apprentis sorciers, de toute manière, et on avait du temps. Et moi, j'aime bien fabriquer des trucs, bidouiller des trucs. Il y a des choses vivantes dans mes placards, comme vous avez dit. Et en fait, ça s'est fait. On a acheté un brûleur sur le Bon Coin. Il a acheté des cuves sur les sites qui étaient pas. Il y en avait pas pléthore à l'époque, mais il y en avait quand même quelques-uns pour se fournir en matériel, en cuves de fermentation et pour faire bouillir. Et après, on a trouvé des endroits où il y avait de la place et de l'eau pour.
Ah, t'as eu de l'eau.
Ben, en fait, on avait quand même des cuves de 80 litres, même si on n'a jamais fait ça vraiment. Ouais. Donc, on a trimballé ça dans la maison de campagne de ma famille. En plus, on a regardé l'eau de là-bas. Elle est bien parce qu'elle est, je sais plus, elle est plus dure, je crois. Du coup, c'est mieux pour les levures. Je me souviens pas précisément, mais on avait été jusque là. Et on a trimballé nos cuves et notre malt. Le malt, on l'a acheté à un malteur local qui est pas très loin d'ici, qui est entre Gaillac et Rabastens. C'est la malterie du vieux silo. On s'est promené là-bas en voiture. Enfin, on avait vraiment du temps. Hein. On s'est promené dans la campagne pour aller acheter nos petits trucs. On était dans une quête pour fabriquer notre bière en cherchant nos éléments. C'était vraiment bien.
Nous faisons une pause musicale avec une bière blonde à consommer avec modération. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Pauline Gadea, brasseuse de bière en amatrice. Comment fait-on la bière ?
On prend du malt et on le fait.
Alors c'est quoi du malt ?
Du malt, c'est de l'orge germée et séchée.
D'accord.
Enfin, séché voire grillé, ça dépend du niveau de couleur qu'elle a à la fin. Et on fait globalement, on fait une tisane. Hein.
Non. Ah là là. Tu veux dire que tout le monde boit de la tisane ?
Oui, c'est ça. Non, on fait chauffer le malt à certaines températures, des paliers plus ou moins différents ou homogènes de température. Pour dégager le sucre qu'il y a à l'intérieur du malt.
D'accord.
Et ensuite.
Mais alors, c'est important de dégager le sucre dans le malt, en fait ?
Ouais, parce qu'en fait, les levures vont manger le sucre et c'est ça qui va faire l'alcool.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est ça qui va faire la bière. Donc, oui, c'est assez important. Après, selon les levures, c'est pas les mêmes températures, c'est pas les mêmes. Selon le type de malt aussi, parce qu'il y a des fois on va vouloir que les levures mangent le plus de sucre possible pour avoir plus d'alcool et moins de matière céréale. Il y a des bières pour lesquelles il y a plus de sucre résiduel et ça va faire une matière un peu plus riche, un peu plus sucrée. Voilà, bon, enfin sucré, c'est jamais sucré, mais voilà, il y a différents niveaux selon ce qu'on veut obtenir. Mais globalement, l'idée c'est ça. On fait, ensuite, on extrait le sucre, ensuite on met les levures pour qu'elles le mangent et on mais on assaisonne entre guillemets avec du houblon, oui, qui crée à la fois l'amertume et le goût, enfin et le l'aromatique. Des fois c'est le même houblon qui fait les deux, des fois non.
Tu veux dire qu'il y a plusieurs sortes de houblons ?
Bah, il y a des houblons plus ou moins amers. Après, il y a plein de houblons différents. Il y en a, je sais pas combien. Il y en a des milliers de houblons, je pense. Non ? Globalement, les gars. Il y en a plein. Il y en a. C'est pas les mêmes selon les pays. Il y a des gens qui sont en train de redécouvrir des tas d'espèces qui déterrent de partout. Parce que en Europe, pendant un moment, la bière artisanale, ben, il y en avait plus nulle part, sauf dans quelques endroits. Mais avant, il y en avait partout. Et chacun avait, enfin, comme plein de phénomènes d'agriculture, hein. Et chacun avait ses petites, plantes locales, son blanc local. Et là, on est en train de déterrer tout ça.
Du coup,
on redécouvre des tas d'espèces de houblons locaux partout, quoi. C'est trop bien.
En plus, c'est joli.
Mais oui, c'est joli. C'est des plantes super. Elles grimpent. Elles peuvent aller jusqu'à 2 mètres de haut. Elles sont bons. C'est trop bien, le houblon.
Elles sont bons. C'est joli. C'est une vigne, presque.
C'est ça. Une vigne géante.
Du coup, une bière, combien de temps on la produit?
Ben, on met à peu près en tout un mois. Parce que elle va. Donc, il faut une journée entière pour la brasser une première fois. Et il faut savoir que c'est une journée où la moitié du temps on va être en train de nettoyer des trucs. C'est quand même important.
Oui.
C'est pas hyper glamour, mais voilà, ça fait partie. Il faut se lever tôt parce qu'il y a des temps à respecter de cuisson, d'ébullition, de repos. Enfin voilà, tout ça, ça prend vachement de temps. À l'issue de la première journée, on a fait la bière, on a mis le houblon et on va la mettre à fermenter pendant quelques jours, 3 à 5 jours. Enfin, globalement, moi, c'est ça qui se passait quand on les faisait, mais ça peut être très différent maintenant selon les techniques qu'on utilise et les températures et voilà. Et ensuite, on va la mettre en bouteille la plupart du temps. En fait, ça dépend si on veut la mettre en bouteille ou si on veut la mettre en fût. Moi, j'ai toujours fait que des bières qu'on a mis en bouteille, où là, en fait, elle a fermenté une première fois. Mais on va la refaire fermenter en bouteille pour qu'il y ait vraiment des bulles. Donc on va lui remettre du sucre pour nourrir les levures, pour qu'elle ait vraiment des bulles en bouteille, au moment où l'on bouteille. Et là, il faut quand même, si on veut la mettre en bouteille, il faut quand même qu'on ait une petite machine pour mettre les capsules sur les bouteilles, par exemple.
Ou prendre des bouteilles à limonade, non ?
On peut prendre... Oui, on peut faire ça, ouais. Nous, on avait une capsuleuse, parce que je pense qu'en fait, on avait surtout plein de bouteilles vides de choses qu'on avait bu. Et puis voilà, c'était plus simple et on avait... Là, c'était quand même l'époque où on commençait à boire des trucs bien. Enfin, on avait tout, quoi. Tu vois, on prenait un peu le tout venant, on a tout bien nettoyé et après, on a mis, mais ce qui fait qu'effectivement nos premières bières, elles sont dans des bouteilles de chut-chut, pas de marque, quoi, tu vois,
ouais.
Voilà, des bouteilles vertes, quoi.
Ah là là, quelle
vie. C'est comme ça. C'était artisanat jusqu'au bout.
Mais comment on trouve les ingrédients, en fait? Tu les achètes, tu les cultives?
Ouais, alors je crois qu'aujourd'hui on les trouve vraiment facilement sur internet ou à Toulouse, si on est à Toulouse, on peut aller voir les forces du malt qui vendent du houblon aux brasseurs amateurs à des bons prix en plus. Mais on peut l'acheter sur internet. Il y a plein de sites. Nous, on allait l'acheter à la seule malterie à l'époque locale du Sud-Ouest. Un mec qui faisait ça,
qui vendait partout du coup aussi.
Non, pas trop. Il n'était
pas encore.
Non, il exportait pas des masses. Hein. La malterie du vieux silo. Je crois que c'était pas une foudre de guerre pour le non. Pour la balance commerciale de la France, c'était pas l'idée, je crois. Mais c'était bien. C'était bien. Il avait des machines énormes qui faisaient des tas de trucs géniaux.
Est-ce qu'en fait, faire sa bière, il faut être bien équipé?
Un peu quand même. Enfin,
pour commencer, en fait. Pour commencer, par exemple, en amateur.
Il faut avoir. Ça dépend quelle quantité on veut faire.
En fait, au début, tu conseilles combien ? 6, 10 litres
Bah ouais, moi je dirais, nous on a commencé direct par des 25
parce que vous avez de la place.
Parce qu'on avait de la place et qu'en plus on est Brieux, il était déjà dans l'optique de s'entraîner pour passer pro après. Là si j'en faisais chez moi dans pas dans ma cuisine parce que c'est pas possible mais j'en ferais peut-être 10 litres ouais. 10 litres tu peux faire ça.
Tu veux dire que c'est le minimum du maximum.
Moins 10 litres c'est dommage Ouais, je sais pas, c'est dommage. Tu vas quand même passer du temps tu vas passer la moitié du temps à nettoyer des trucs en plus. Donc c'est relou.
Et je suis d'accord avec toi parce que à la maison, nous aussi, on a brassé notre propre bière. Et 10 litres, c'est la bonne quantité, en fait. C'est le minimum du maximum.
Et vous êtes équipés ?
La première journée, justement, on a passé notre temps à laver, quoi.
Mais oui.
À tout désinfecter, c'était assez... C'était la chose qu'on ne s'attendait pas, en fait. Mais vraiment...
Mais c'est vrai, on s'attend pas à ça. Quand on se dit on va brasser de la bière, on se dit ouais, on va passer la journée à genre mélanger le malt avec un fourquet ou avec, tu vois, genre...
On avait vraiment une imagination trop romantique, en fait.
Mais ouais, parce qu'on fait ça, mais à peu près... non, c'est pas vrai, on le fait quand même un bon moment dans la journée, mais c'est un moment où il se passe plus grand-chose, en fait. Les moments où t'es vraiment actif, c'est le moment où tu fais des trucs vraiment relous.
Quelles sont les astuces pour réussir son premier brassin ?
Oh purée, je sais pas. bien nettoyer.
Ah voilà. Je crois que c'est en fait la.
Bravo !
Non mais c'est vrai parce qu'en fait, si on nettoie vachement, c'est parce qu'il peut y avoir plein de contaminations à plein de moments différents et du coup, il faut vraiment tout nettoyer quoi.
Ah,
nettoyer et sécher. Parce que l'eau.
Tu veux dire qu'en fait c'est sensible comme.
Oui, c'est vivant. Et tu, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas encourager un certain type de bactéries et de levures et tu encourages une bagarre bactériologique qui a lieu de toute manière en essayant de pousser, de protéger avec de l'alcool, avec du houblon, avec. Mais tu peux pas être sûr que tu vas la gagner et entre guillemets si tu la perds. Ta bière, elle va être beaucoup plus acide souvent que ce que tu voulais faire, voire elle va être imbuvable, voire elle va tourner, avoir goût de vinaigre. Ça.
Comment tu le sais en fait ?
Bah, tu le sens quand même. Ah. Tu sens à l'odeur. Mais nous, on n'a pas trop raté, hein. On a première peut-être une fois. Non, c'est pas la première. La première, on l'a réussi direct. Deuxième, on l'a raté, ouais. Parce qu'on a mal séché les trucs. Parce qu'on a mis de l'eau. Bon, en gros, la source de Shaitan, c'est vraiment l'eau, quoi. L'eau, ça contient, c'est vraiment une source de contamination importante. Donc en fait, quand on lave, c'est pour ça que ça prend vachement de temps. C'est quand on lave les choses, il faut en plus qu'elles soient sèches globalement. Sauf toute la phase avant l'ébullition. Où là c'est beaucoup moins grave parce qu'après tu vas libérer les sucres avec des températures différentes et après tu vas filtrer tu vas enlever ce qu'on appelle les dresches, donc tu vas enlever l'orge qui a cuit globalement, tu vas garder que le liquide et après tu vas le faire bouillir. Donc c'est pas grave si tu mets des saloperies dedans avant. Mais après quand l'ébullition est finie et que ça refroidit, c'est là où il faut pas faire de bêtises. Faut pas mettre d'eau, faut pas Faut pas parler au-dessus de la cuve. Enfin, je sais pas, mais nous, on avait des superstitions comme ça, un peu.
Comment on crée une recette ?
Ben, on s'inspire de choses qui existent. On regardait un peu sur des forums ou sur Internet, genre telle personne a fait ça comme ça, ok. Et on se demande qu'est-ce que nous, on a envie d'y mettre, d'y rajouter peut-être ou d'essayer pour adapter. Pour adapter à ce qu'on voudrait faire. Mais après, au début, quand on commence, on copie un peu ce qui existe parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire forcément. Donc, on se dit, tiens, j'ai bu ça, j'ai aimé ça, je vais essayer de reproduire ce résultat-là. Comment les gens font pour arriver à ça ? Bon, on va faire comme ça. Et donc, à partir de là, on compose. En fait, on compose la proportion de types de malt différents qu'on va mettre.
Tu utilises plusieurs malt dans une recette, en fait ?
Pas toujours, mais on, bah oui, on peut. C'est comme ça qu'on arrive à des types de bières différents, notamment pour les couleurs. Parce que les maltes les plus grillées, les maltes les plus noires, c'est pas ceux qui vont donner les sucres. Donc c'est eux qui vont être utilisés pour la couleur ou la texture. Ou enfin là, c'est dans le cas où on parle que de bière d'orge. Mais et donc là, notamment, il faut utiliser plusieurs maltes. Après, on peut utiliser un seul type de malt qui est de base et faire de la bière simple.
Alors dernièrement, tu as fait une bière à l'acrylique. Mais quelle idée !
Oui. Alors moi, j'ai envie de faire des bières bizarres maintenant.
Tu veux dire des bières de sorcières ?
J'ai envie de faire des bières de sorcières, voilà, pour être tout à fait précise.
J'ai vu que tu as apporté un bouquin aussi.
Oui,
qui est incroyable.
Ouais, j'ai amené ce livre qui s'appelle Sacred Herbal Healing Beers.
Donc c'est des bières de guérison, enfin de soins.
Écoute, je sais pas, j'ai essayé une seule bière dessus. En fait, c'est divisé par chapitre. Alors ils te disent, il y a des bières rituelles, des bières issues de plantes médicinales, des bières sacrées, des bières. Et bon, moi je me suis intéressée au chapitre des bières psychotropes. Ou supposément. Et j'ai vu qu'il y en avait à l'Aquilée Millefeuille. Donc si tu fais de la bière à l'Aquilée... Donc la cervoise, techniquement, parce que s'il n'y a pas d'houblon, on appelle ça de la cervoise. Si tu fais de la bière à l'Aquilée Millefeuille, c'est censé... Alors c'était servi dans les mariages vikings, apparemment, pour rendre les gens zinzin. Donc c'est censé être...
Je pense que pour un mariage, c'est bienvenu quand même, non ?
Voilà. C'est ça. C'est censé être très euphorisant, voire aphrodisiaque et un peu vrillé. Alors celle qu'on a faite, elle n'était pas. Enfin, je sais pas. Peut-être un petit peu. En parlant, on se dit peut-être un petit peu. Mais c'était pas non plus flagrant. Mais en fait, dans ce livre, on voit notamment qu'il y a plein de types de bières possibles. Ou à la place d'utiliser du houblon, ou en tout cas en complément, parce que nous, on a quand même mis un peu de houblon. Parce qu'on avait peur de que la bière soit contaminée. Le houblon, ça aide quand même à
conservation.
À conserver, ouais. C'est un antiseptique, mais on peut mettre plein d'autres types de plantes, notamment des plantes médicinales, mais pas que. L'aquilée, vous voyez peut-être pas ce que c'est. L'aquilée, on en trouve partout. C'est les fleurs blanches qu'il y a au bord des routes. Enfin, moi, je l'ai ramassée dans le Gers. Au bord de la route.
Un soir de pleine lune.
Nu un soir, bien sûr, nu un soir de pleine lune, évidemment. Mais oui, voilà, on peut vraiment, il y a beaucoup de choses à partir desquelles on peut faire de la bière. On peut faire de la bière à l'ortie, on peut sans doute faire de la bière au sureau, on se posait la question tout à l'heure, on peut, voilà.
Sureau, ça c'est cher. À l'ortie, pourquoi pas une prochaine fois?
Si, à l'ortie, j'en ai goûté à un salon en plus dans le Nord, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, comme les soupes à l'ortie. On fait des soupes à l'ortie, pourquoi pas de la bière à l'ortie. Moi, c'est ça qui m'intéresse comme aujourd'hui comme type de bière, parce que c'est amusant, ça a un goût encore différent, ça a moins d'amertume. Et puis j'aime bien l'idée d'essayer de faire des mixtures de sorcières qui ont une histoire, qui sont liées à des rituels ou à un territoire ou à, voilà.
Que penses-tu des kits clés en main que l'on trouve un peu partout?
Bah, c'est bien pour commencer, c'est super si ça permet à des gens de se lancer sans trop se prendre la tête et sans, comme nous, qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de rassembler divers éléments sur
le bon
coin.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de...
Bah, il y a quand même pas mal de choses, parce qu'il faut chauffer, il faut filtrer, il faut fermer hermétiquement, mais pas tout à fait, pour que ça fermente. Après, il faut transvaser dans un autre endroit, il faut refroidir vite. Donc, soit on a des astuces pour faire tout ça, soit il faut du matériel, quoi. Donc, oui, moi, je les quitte tout prêt, c'est super pour commencer, hein. Il n'y a pas de... Je porte pas de jugement de valeur dessus. Après, c'est encore mieux. Là, les forces du Malte à Toulouse, ils ont un kit pour les gens. C'est fait par une asso. C'est trop bien. Il est pas cher du tout.
Appris.
Bah voilà, combien il coûte? Il coûte
15 € avec l'adhésion.
Bah voilà, c'est quand même pas très cher, quoi.
C'est le plus raisonnable des kits qu'on ait choisi, en fait, parce que du coup, il y en a eu d'autres que. J'étais pas emballée. Voilà, c'est personnel.
Ok.
Alors, Nous faisons une pause musicale avec une bière brune à consommer avec modération. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Pauline Gadea, brasseuse de bière en amatrice. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire des innovations dans les bières artisanales?
Ah ben oui. Alors c'est pas moi qui vais les faire, je pense, mais parce que bah déjà je brasse plus beaucoup en ce moment. Mais oui, bien sûr. Bah ils ont fait de la bière au cassoulet il y a quelques mois. Oui. Attends, l'innovation de dingue. Tout le monde en a parlé.
Bah oui,
la
mais
France
moi je l'ai goûté.
Entière s'est arraché la bière au cassoulet quoi.
Ouais. Et tu as pu goûter une bière?
Mais oui, bah c'est intéressant. Bon après. mais non, mais.
Non.
Ben si complètement. Mais non, mais ça c'est plutôt une blague. Mais après, il y a une Toulousaine, je sais plus son nom, qui essaye de faire de la bière sans sucre, je crois. Mais
comment c'est possible à partir de malt?
Mais je Je sais pas comment elle fait honnêtement, mais elle fait ça avec de la chimie et il y a des résultats proches aujourd'hui avec certaines. Bah, d'ailleurs, il y en a une à la carte qui s'appelle Brut. Certaines levures et certaines manières d'utiliser les levures qui permettent qu'il n'y ait aucun sucre résiduel, c'est-à-dire que tout le sucre soit transformé, par exemple. Donc ça, c'est une innovation. On peut se dire c'est un peu technique, ça sert à rien, mais au niveau du goût, ça donne quelque chose d'intéressant parce que c'est assez sec, assez pur, et on peut se dire que pour les gens qui peuvent pas ou qui veulent pas boire de sucre, ça peut être cool aussi. Après, il y a plein de vieux styles qu'on déterre ou qu'on remet au goût du jour, qui peuvent être considérés comme des innovations. Autour des bières acides par exemple,
les sour,
qui sont c'est des bières de fermentation spontanée souvent, donc
alors ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire qu'on rajoute pas de levure, elles vont fermenter toutes seules.
D'accord.
Et ça veut dire qu'il faut encore mieux maîtriser son environnement que pour des bières
Mais du coup
normales.
C'est plus difficile alors de produire hein.
Bah plutôt sauf si tu décides de laisser complètement faire la nature et que tu auras ce que tu auras, tu vois, mais en général c'est un peu risqué. Donc enfin pour moi c'est des styles qui existaient déjà avant, mais c'est des innovations dans le sens où les gens en faisaient pas trop, en buvaient pas trop. Et aujourd'hui, ça intéresse les gens et les brasseurs d'en faire, donc ça peut être considéré comme.
Tu veux dire que ce serait possible de faire une bière au kimchi?
Oui. À choucroute, à tout ce que tu veux. Attends, il y a des gens qui font des bières au concombre, il y a des gens qui font des bières au lait. Au lait ici aussi, il y a des
milk.
Ouais, avec du lait. Les milk stout, milk porter, avec des fruits. Des fruits qui en partie fermentent pour des fois dans certaines recettes, il y a plein de choses à faire. Bah déjà tout le livre que j'ai là, j'en ai fait une des recettes, il y en a 1000. Non, il y a pas 1000.
Mais là il y a assez pour faire une fête là.
Il y en a plein.
Que penses-tu des festivals de bière artisanale comme Octobière ou Toulouse Beer Fest?
Ben c'est trop bien. Ça fait connaître les brasseurs locaux à tout le monde. Ça fait découvrir la bière artisanale peut-être à certaines personnes. Mmh. Ça fait un événement sympa où il y a souvent de la musique. Moi, je trouve ça
de
super.
De la bouffe aussi.
De la bouffe, ouais. C'est bien.
Ça va ensemble, là. Mmh. Quel bar conseilles-tu à Toulouse hein?
Oh là là, non. Alors ça, c'est une question trop politique. Il faut pas me la poser. Non, le bar Botteur, bien sûr.
Non, pas de pub.
Ah, justement, il faut en citer trois.
Non, non, écoute, le bar Botteur, le parallèle et deux en plus. Bah, le poil de la bête, et le hopscotch et la mécanique des fluides. Ça fait plus que trois.
Ah, c'est génial.
Et le Kraken Paradise.
Ah oui, oui.
Ça fait.
Qui est devenu un bar à bière en fait. Avant, c'était.
Avant ça, je sais pas.
Et du coup, les cavistes
hein. Eh ben, Bière Mosaïque, qui avant d'ailleurs était ici, qui sont maintenant à Saint-Aubin. Où est-ce que je vais d'autre sinon? Moi, j'aime bien rester dans mon quartier, donc je vais pas très loin, mais. Ah, et l'almanach, tiens, j'ai oublié le bar, l'almanach.
Ah oui,
non,
l'almanach.
Pardon. Comment j'ai pu oublier l'almanach? Mais oui, il est trop bien. Mais parce que je vais pas à Saint-Cyprien, c'est pour
mais
ça.
Mais oui, moi non plus.
Mais sinon, c'est trop bien l'almanach. Ils sont des super bonnes bières. Et comme caviste, bière mosaïque, bon.
Mais tu trouves, il y en a de plus en plus en fait.
Ouais, il y a Saint-Cyprien aussi, y a, mais je connais que son nom.
La Houblonnière.
La Houblonnière, voilà. La cave de Punky. Où ils ont de la bonne bière. Où est-ce que je vais? Bah ici maintenant, il y a un bar. En fait, maintenant de plus en plus dans les cavistes de vin, ils ont des bières artisanales locales de plus en plus.
Oui.
Donc t'es pas obligé d'aller à l'autre bout de la ville ou voilà pour te fournir en bière artisanale de base. Là sur la place Arnaud Bernard, il y a un caviste à vin qui a repris un ancien caviste où maintenant il y a une bière, enfin moi j'aime bien, il y a des bières notamment de la brasserie du Midi qui est assez cool.
Qui est très connue maintenant.
Ouais. Mais il y en a qui commencent à être très cotées, hein. Localement, il y a des super brasseries.
Oui, brasserie du Midi, il y a qui encore la brasserie de la Sayonne aussi qui prend beaucoup d'ampleur.
Iron à Montauban. Nous, quand on a commencé à s'intéresser à ça, il y avait la brasserie des Vignes qui faisait de la bière acide d'ailleurs justement et Jolie Rouge qui faisait de la bière très bonne bière, mais bière de punk.
Ah ça oui, même leurs étiquettes. Alors justement, on va faire la transition. On connaît le greenwashing. Aujourd'hui, il existe le craftwashing. Est-ce qu'il faut être plus vigilant? Parce que maintenant, il y a des bières industrielles qui reprennent tous les codes des brasseries craft, en fait.
Ben oui, parce que c'est des gens qui perdent des parts de marché, donc ils essayent de se défendre. Oui, il faut être vigilant. Ça dépend ce qu'on veut boire. Il faut boire ce qu'on aime, quoi. Tu vois, donc bon. Après, souvent, les cavistes sont de bons conseils. Les caves à bière, même les caves à vin, quand ils se fournissent, notamment localement, on peut pas trop se tromper parce que en local, il y a pas trop de grosses industries qui vont pour. Enfin, en tout cas, moi, je connais pas de cavistes qui vendent des bières à Toulouse, qui vendent des bières artisanales, qui soient de la triche entre guillemets, tu vois. Il y en aura peut-être, il y en aura sans doute, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, bah, comme le vin, il faut demander, aux gens, à son caviste, quoi.
Et justement, les festivals de bière, en fait. Oui, enfin, c'est pas une question. Je veux dire, il faut justement pour le public, d'aller au festival de bière pour connaître. Pour reconnaître les brasseurs, en fait.
Ben oui, c'est ça. Si tu vas au festival, tu les connais, du coup, tu les identifies.
Ils sont toujours là. Enfin.
Tu peux goûter leur style différent, tu peux voir un peu s'ils ont un peu le temps de te raconter pourquoi, comment ils font les choses. Ouais,
j'ai remarqué qu'ils ont un storytelling bien. Comment dire, il le sort à chaque fois en
rodé,
fait.
Rodé,
hein. Oui, c'est ça, bien rodé.
Écoute, au bout d'un moment, tu réinventes pas la roue, hein. Tu racontes ce que tu fais aussi, il y a ça. Hein. Enfin, j'imagine, je sais pas. mais ouais. Je sais pas, moi ça me. Ouais, tu. Après, un festival, tu vois 10 000 personnes toute la journée. T'as pas forcément l'inventivité de raconter un truc incroyable à chaque personne que tu croises, je pense. Mais bon.
Mais je trouve que chaque brasseur que je rencontre, ils ont tous chacun une histoire incroyable parce que c'est tous des reconversions la plupart.
Mais oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a comme ça, il y a encore 5 ans, c'était vraiment pas un truc. Enfin, 10 ans, c'était un truc difficilement envisageable, sauf pour quelques zinzins globalement. Aujourd'hui, qu'il y a encore de la place, qu'il y a encore un marché qui grossit, qu'il y a encore des places à prendre, qu'il y a encore des choses à faire, toute une population qui en boit pas encore et qui en boira sans doute encore plus dans un an, encore plus dans 2 ans. Enfin, ben, ça attire des gens d'horizons divers et variés qui entre guillemets sentent le filon, mais c'est pas du tout péjoratif. En tout cas, moi, dans mon état d'esprit, qui se disent, ben, c'est possible, on peut vivre de ça.
Est-ce que tu cuisines à la bière? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que la bouteille verte est bonne pour faire des crêpes?
Oui, on est d'accord. Ouais. Bah c'est pour oui, c'est aussi pour moi c'est les deux goûts sont associés en plus depuis l'enfance, donc quand tu as ces deux goûts là associés depuis l'enfance dans ta tête, forcément tu trouves ça bon, t'as pas envie de les, tu vois. Donc ouais, moi je oui. Pas de souci.
Et tu cuisines à la bière aussi?
Ouais, ça peut m'arriver.
Avec des bières artisanales ou tu trouves ça trop dommage?
Non, ça peut m'arriver. Après, ça. Souvent, c'est avec des bières qu'on n'a pas fini la veille.
Ah, comme le vin, tu veux dire?
Oui, voilà.
Alors, toi et moi, on s'est rencontrés justement dans le cadre. Dans une fromagerie?
C'est vrai.
Alors, est-ce qu'il existe des accords fromage et bière?
Ouais, mais là, tu me poses des questions beaucoup trop compliquées pour moi.
Ah, comment ça? Je croyais.
Mais oui, il y en a plein. Et quand je travaillais dans la fromagerie, j'en avais plein en tête parce que j'étais. Il y avait une sommelière dans la fromagerie où je travaillais qui était super forte et complètement passionnée par ce qu'elle faisait, qui faisait des accords fromage-bière qui étaient assez géniaux. Notamment sur les bleus avec des bières brunes ouais, j'ai des souvenirs assez émus comme ça de bières super super fortes, très alcooleuses, des bières brunes, des bières impériales, des bières fortes quoi, avec des fromages aussi forts ou des fromages du nord aussi, ceux qui sont lavés à l'alcool, les maroilles, les Munster, les trucs comme ça. Bah, il y avait des bières qui tenaient bien la route avec ça.
Alors, tu conseilles quoi avec?
Honnêtement, je me souviens du style. Je me souviens pas des bières en elles-mêmes, mais à part que c'était peut-être souvent des bières de Flandre, justement, ou un peu belge, ou brune. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus de variétés que il y a sans doute des choses très étonnantes à faire. Donc, moi, j'ai plus forcément l'idée, mais il y a les sommeliers, je sais, de plus en plus, ils travaillent avec des accords mets et bières, parce qu'il y a des trucs super cool à faire avec ça.
En ce moment, c'est la redécouverte des boissons fermentées à faire chez soi. Est-ce que tu fais d'autres boissons à part la bière?
Oui, bah je fais même plus d'autres boissons parce que ça prend moins de temps, de matériel, d'espace et de voilà.
Qu'est-ce que tu fais du coup?
Je fais du pétillant de sureau. Des boissons. J'ai essayé de faire du ginger bud pour faire une espèce de levain au gingembre là Oui, après on peut faire fermenter. On peut en mettre un peu dans tout un tas de jus ou de breuvages.
Ah, et c'est vrai qu'on peut faire aussi du pain avec, non?
Du vin,
du
avec,
pain
avec le ginger bud peut-être. Je sais pas. C'est vrai, on peut faire
je
ça.
Je sais plus. J'ai lu quelque part, je crois.
Mais c'est possible.
Tu fais du kéfir, ça je sais.
Je fais du kéfir.
Tu m'as dit l'os de kéfir.
Du kombucha, mais du kombucha j'en fais plus parce que je sais pas pourquoi j'ai fait mourir toutes mes dernières souches de kombucha, j'ose plus en reprendre.
Ah bah, pourquoi c'est difficile? C'est sensible aussi?
Ben, on dirait, parce que en tout cas dans mes placards ils moisissent assez vite. Je dois mal m'en occuper, je sais pas, il y a un truc, il faut que je réessaye, mais c'est ouais bah après les fermentations c'est toujours assez sensible, c'est plus ou moins sensible, mais je trouve qu'on sait assez facilement quand c'est raté, quand c'est réussi. Genre même les légumes c'est pareil en fait, hein, tu ouvres, tu sens si c'est pas bon, tu sens ton corps, il te dit non.
D'accord.
Tu manges pas ça,
c'est instinctif.
tu le sais c'est pas une délicate odeur de vinaigre, tu vois, c'est genre danger.
Alors merci Pauline.
Ben, merci à vous.